La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.
Et bienvenue, quel plaisir de vous retrouver sur cette sixième édition de la REF, organisée comme chaque année à l'Hippodrome Paris-Longchamp, organisée par le MEDEF. Nous sommes heureux de vous faire vivre sur les antennes de Radio Immo et Radio Territoria. Et bien cet événement, pendant deux jours, nous recevons ici régulièrement des invités qui nous font l'honneur donc d'être présents à nos côtés. Alors bonjour Fabrice Sachet.
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce magnifique plateau.
Bah, évidemment, vous êtes le bienvenu. Vous êtes un petit peu chez vous, ici en tout cas à l'Hippodrome. Aujourd'hui, où se tient effectivement cette sixième édition. Je rappelle que vous êtes président fondateur d'AREA, vice-président également du MEDEF. Et on va évidemment reparler de cette nouvelle édition ensemble. À mes côtés également, Sylvain Lévy-Valenzi. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, comment ça va?
Écoutez, en pleine forme, vous êtes super bronzé, dites donc.
Voilà, moi je suis très heureux de retrouver Fabrice, comme chaque année, qui nous a vu naître et qui nous a beaucoup encouragés. Voilà, donc, c'est un plaisir de l'avoir sur le plateau.
Voilà, Sylvain Lévy-Valenzi, qui, je le rappelle, est le directeur des antennes de Radio Immo, Radio Territoria, partenaire média pratiquement depuis le début de cet événement. Comment ça se passe, Fabrice, l'événement?
Écoutez, très bien, mais si vous me permettez de rajouter quelque chose, une ligne à ma biographie, il y a aussi la présidence de 3F, je le suis, parce que
bien sûr.
Sur Radio Immo, et quand même 3F, filiale du groupe Action Logement, première ESH, filiale du groupe Action Logement en Ile-de-France et partout en France. Et donc, je pense que c'est aussi important pour vos auditeurs qui s'intéressent à l'immobilier. Qui passe une période très difficile et 3F s'est vraiment engagé l'année dernière dans l'AMI pour racheter, pour aider aussi la VEFA, pour aider les promoteurs immobiliers et puis a eu des performances vraiment très puissantes avec Valérie Fournier et toutes les équipes. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses que fait 3F. On a lancé beaucoup d'initiatives sur le beau, sur l'esthétique, sur la maîtrise d'ouvrage direct, voilà, sur rationaliser les choses. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, donc le logement social, c'est du très beau logement.
Évidemment, et alors j'ai pas omis d'en parler, on en parlera évidemment tout à l'heure dans cette émission de 3F. Juste là, sous votre étiquette de vice-président du MEDEF, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette sixième édition dont le coup d'envoi a été donné tout à l'heure à 14h, dans un contexte, on va dire, un petit peu, on va pas se cacher, un peu bizarre?
Alors, bizarre, je sais pas, mais c'est un contexte particulier, un peu inédit plutôt, pour notre pays, parce qu'on n'est pas habitué, avec la forme de scrutin qu'on a, à avoir une composition de majorité politique qui doit se faire de façon aussi complexe au Parlement. Et c'est vrai que quand on regarde la situation de l'Assemblée nationale, à bon droit, on peut se demander effectivement qu'est-ce qui va sortir de cette situation. On a trois blocs, je dirais à peu près homogènes pour faire simple, qui ont des positions sur des sujets économiques et sociaux qui peuvent être assez clivantes ou différentes. Et donc, c'est vrai que ce compromis, il paraît très éloigné. Mais il ne faut jamais désespérer de la situation. Il y a des hommes de bonne volonté partout, en politique, dans le monde de l'entreprise, au sein des syndicats. Et je pense que dans notre pays, il y a une énergie, il y a une force de personnes qu'on n'entend pas assez souvent à notre goût, mais une force, j'allais dire, de construction, de gens qui ont envie de hisser le pays vers le haut, de le tirer vers le haut, de construire, de développer, de croître. Et c'est ces gens-là qui doivent se rassembler pour faire en sorte que les semaines et les mois qui viennent soient un temps utile pour le pays, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un espèce de trou noir comme ça à un moment où, parce qu'on raisonne à l'échelle mondiale aujourd'hui, hein, on n'est pas derrière comme ça une ligne Maginot, à un moment où il y a des choses qui s'accélèrent en Asie, technologie, dépôt de brevets, innovation, où les États-Unis aussi, économiquement, ça porte très fort, ça va très fort et très vite, et on ne peut pas passer à côté de ruptures économiques, technologiques, parce que sinon on va se mettre en difficulté pour les années et décennies à venir.
Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, très justement, l'action essentielle, majeure, qu'a le logement, entre guillemets, social, dans le pays. Vous avez rappelé la transformation opérée par 3F, qui est un acteur aujourd'hui déterminant. Néanmoins, les chiffres sont têtus, hein, vous le savez. Ils sont même très alarmants. Alors, je vais vous en donner deux ou trois. 17% des contrats à durée indéterminée n'ont pas pu être signés, faute de logement. 12% des étudiants ont renoncé à leurs études, faute de logement. La crise que traverse aujourd'hui le logement social, non pas par rapport à son modèle, mais ne serait-ce que par rapport à son offre est une situation absolument stupéfiante, sidérante. Je voudrais vous demander, tous ces chiffres-là, bien sûr, vous les connaissez, je voudrais vous demander un petit peu votre réaction, sans tomber dans la polémique politique, mais quand vous entendez Bruno Le Maire faire un mea culpa devant tout le monde en disant s'il y a une chose que j'aurais dû faire, c'est du logement, que vous entendez Gabriel Attal qui dit le sujet, comme avec Emmanuel Macron, le bon sujet, ce serait le logement, la préoccupation du prochain gouvernement, ça vous fait rire ou vous dites c'est quand même un peu ironique de voir des positions alors qu'ils auraient pu, pendant plus de 6 ans, avoir cette possibilité d'inverser les choses.
Alors, nous, la sonnette d'alarme, on l'a tirée depuis de nombreuses
vous
années.
Vous n'avez cessé de le faire.
Si vous voulez, ce n'est pas un sujet qui prête à sourire parce qu'il touche, et ce n'est pas un des chiffres que vous avez évoqués, mais il touche la partie de nos concitoyens aussi les plus précaires. Mmh. Le coût du logement a le plus augmenté pour le dernier décile de la population. Et c'est à peu près 40% du budget moyen du dernier décile. Mmh. Et c'était à peu près 30% il y a quelques années.
Une dépense hyper contrainte.
Et donc, c'est vraiment les personnes qui sont en difficulté et le mal logement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un manque d'offres qu'on voit forcément des personnes dans la rue en nombre très conséquent. Il y a une acceptabilité, une acceptation du mal logement qui est à proprement parler stupéfiante et scandaleuse. On s'entasse dans des logements, on accepte de faire des distances absolument pharaoniques tous les jours pour aller travailler en utilisant des transports en commun, une voiture qui coûte cher parce que l'essence, etc.
Pourquoi les gens ne réagissent pas plus
Mais parce que ce n'est pas un sujet claquement des doigts. On sait très bien que si on n'a pas d'agrément, les agréments, par exemple, les agréments sont catastrophiques cette année.
Ah oui, oui.
On sait très
je
bien
crois que de mémoire, on n'a pas vu des agréments.
Mais oui, mais
pas.
Donc les agréments catastrophiques cette année, c'est dans 2 ans le résultat catastrophique, encore plus catastrophique que ce qu'on connaît. Et donc, il y a, sur la question du logement, je dirais tellement un temps de latence entre les actions qui sont prises et finalement ce qu'on voit sur le terrain fleurir il y a 2-3 années, peut-être 4, qui peuvent se produire, que ce n'est pas forcément un sujet, j'allais dire, ultra simple. En plus, c'est complexe, parce que les agréments dépendent des élus locaux, des maires, parce que les riverains s'opposent à des projets, les contestent, parce qu'on veut tous du logement, mais pas à côté de chez nous, parce qu'on ne veut pas les nuisances liées aux travaux, parce qu'il y a des idéologues qui disent que la construction pollue, et donc, etc., etc. Donc c'est un problème qui est complexe. Nous, on a tiré la sonnette d'alarme depuis de nombreuses années. On n'a pas été entendu. Je pense principalement que c'est parce que la vision que certains élus peuvent avoir du logement, ce n'est pas la bonne vision. Ils n'ont pas la vision d'une industrie. C'est une industrie, c'est une filière avec des entreprises, avec des carnets de commandes qui ne peut pas faire du stop and go, qui a besoin de visibilité, de lisibilité. Parce que derrière, il y a des investissements. Les cimentiers, ils font des investissements. Les fabricants de matériaux, ils font des investissements. Il y a de la logistique. C'est lourd, ceux qui font du préfabriqué.
Vous avez vu les chiffres de l'industrie, justement, les chiffres. Alors, je vous donne quelques chiffres. On a 40% de baisse de logements neufs, 40%. Dans certaines régions, les chiffres sont plus bas. On a 180 promoteurs qui sont en redressement judiciaire et en dépôt de bilan pour une bonne partie. On a toute une industrie, notamment sur les matières, qui accuse une baisse d'activité de plus de 30%. Et on a déjà les premiers chiffres de la FFB.
Oui, bien sûr.
Qui viennent de tomber.
Bien sûr, qui ne sont pas bons.
Mais
pas bons.
Alors,
et on a aussi.
On fait comment, Fabrice, pour se redresser, vous l'avez indiqué, cycle long, temps long, avec une politique qui change tous les 3 mois ou tous les 3 jours.
Mais le problème aussi, c'est qu'on voit l'immobilier comme une rente. Et lorsqu'on a supprimé l'ISF, on a conservé l'IFI. Il y a une vision de l'immobilier qui est une rente. L'immobilier, c'est le patrimoine de gens qui peuvent être modestes. C'est pour eux une chance dans la vie d'être propriétaire de quelque chose.
Absolument.
Parce que cette propriété leur permet d'avoir un accès à des prêts pour avoir d'autres projets, pour financer des études,
absolument,
pour financer une voiture qui va leur permettre d'aller prendre un travail qui est peut-être plus intéressant. Voilà. Et donc, en fait, c'est pas parce qu'il y a l'image comme ça de rentiers de l'immobilier, mais c'est faux. C'est des petits patrimoines, souvent, l'immobilier. Et donc, je pense qu'il y a des présupposés qui sont faux. Et ces présupposés, on sait d'où ils viennent et on sait qui perçoit l'immobilier. Comme ça, le président de la République.
Le président Emmanuel Macron, cinq gouvernements, 5 ministres du logement, bis repetita. Non, oui. quand je vous disais, ça fait rire, c'est plus de l'ironie de se dire, il faut arriver finalement à ce que les Français congédient l'exécutif actuel pour se rendre compte de la crise majeure qu'a le logement. Et je ne parle pas du logement social dont vous avez rappelé que les chiffres des agréments ont été les plus bas depuis 40 ans.
Hein. Je pense que c'est un sujet aussi dans beaucoup de pays occidentaux. Hein. On voit au Royaume-Uni, ils n'ont pas du tout construit. Aujourd'hui, le nouveau gouvernement, il a comme priorité la construction de logements, notamment pour les salariés. Au Canada, il y a aussi une crise du logement qui est phénoménale. Donc, on n'est pas le seul pays, d'ailleurs, à l'échelle européenne. Ursula von der Leyen, dans son discours en juillet, stratégique hein, pour les prochaines années, a annoncé, alors que ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, a annoncé un commissaire au logement. Et donc, ça veut dire que ça a été demandé par plusieurs pays et que cette problématique du logement, des centres-villes qui deviennent impossibles pour les salariés, ce n'est pas un phénomène qui est que français. Il y a des villes où le prix du logement est devenu inabordable, que ce soit à Munich, à Berlin, à Hambourg, à Londres, à Amsterdam. À Amsterdam, le prix du logement est absolument stratosphérique. Et donc, c'est un problème qu'on a dans nos pays, j'allais dire, occidentaux. Et il faut qu'on arrive à le traiter avec aujourd'hui aussi une problématique des taux d'intérêt qui ne dépend pas du gouvernement. Aujourd'hui, on a des taux qui demeurent très élevés alors qu'on a une situation d'inflation qui est plutôt dans la cible maîtrisée de 2%. Donc évidemment, nous, on appelle à ce qu'il y ait un assouplissement rapide parce que cet assouplissement, il peut permettre de relancer la machine économique. Le logement et au-delà de ça, le crédit aux entreprises.
Vous avez pris conscience, bien sûr, de tout ça, puisque vous avez été parmi les premiers à alerter le gouvernement à de multiples reprises. Le rapport entre l'emploi et le logement. Hein, le rapport entre l'emploi et le logement. Vous avez de grosses actions chez le groupe Action Logement et vous, chez 3F. On sait que c'est l'ADN de rapprocher dignement, hein, je rappelle dignement, les salariés de l'emploi. Mais les chiffres, encore une fois, sont têtus. Est-ce que, Fabrice Le Sachet, vous ne traversez pas avec le logement social? Est-ce que quelque part, c'est l'incurie de ces politiques ne vous a-t-elle pas brisé les jambes avec justement les chiffres que vous venez d'annoncer ? Alors que vous avez les moyens, les possibilités, les idées, et vous avez innové. Et même en dehors de toute chapelle politique, hein, je précise.
Hein. Ouais. Non, mais vous avez tout résumé. En fait, nous, c'est une situation extrêmement frustrante parce qu'on a des équipes qui sont mobilisées, qui ont les projets, qui ont un pipeline, un portefeuille de projets absolument conséquent, qui ont alors, plus ou moins les moyens, mais on pourrait faire. Mais on est dans un secteur qui est ultra réglementé. Et donc, la primauté du politique qui décide par la réglementation est fondamentale. Le livret A, les décisions qui sont prises sont absolument impactantes pour notre secteur. Le ZAN, l'artificialisation des sols, les autorisations. Donc, on est une filière, une profession qui est extrêmement soumise à la réglementation, aux politiques. Et donc, par les instruments politiques...
On peut même parler d'inflation normative. Mmh.
Comment ? Ouais, bah alors l'inflation normative, encore, j'allais dire, si on avait de l'inflation normative sur les trucs de sécurité, ça renchérit le coût, ça complexifie, bien sûr, ça ralentit, tout. Ouais. Mais c'est pas ça ce qui bloque aujourd'hui. Ce qui bloque, c'est que nous n'avons pas les agréments. Il faudrait un plan Marshall d'autorisation. Il faut absolument qu'on ait des gens qui prennent un stylo pour signer des autorisations.
Il faut rappeler que
des gens signent des autorisations de projet.
Appelons Jean-Louis Borloo à la rescousse. Non, le plan Marshall...
En plus, ce qui est fou, c'est que ça ne coûte pas grand-chose au budget de l'État. Bien sûr. Et alors, quand certains disent « Oui, mais ça coûte parce qu'on a des systèmes d'incitation qui sont pour le budget de l'État », non, parce que cette filière, elle est contributrice nette en recettes fiscales. Et donc, c'est pour nous extrêmement important. Et puis, en plus, ce qu'on oublie de dire, c'est l'attractivité des villes. Parce que Action Cœur de Ville, Action Logement, il y a des centres-villes. Je peux vous dire que le commerce, ils disent merci tous les jours au programme Action Cœur de Ville.
Ouais, c'est clair.
On est en train de rénover des quartiers prioritaires. On parle de l'intégration, on parle des émeutes. Cet outil immobilier, il est quand même mobilisé, utilisé. Mm. Dans les villages, on redonne vie ou dans des petits centres-bourgs, on fait de la rénovation énergétique. On permet finalement à des gens de rester chez eux à des coûts abordables. Toutes ces outils, cette palette d'outils qu'on a chez Action Logement, c'est assez extraordinaire et c'est frustrant de temps en temps de ne pas pouvoir déployer parce que nous n'avons pas d'autorisation.
Oui.
Franchement, mais signer des autorisations, il y a des investisseurs qui sont
prêts.
Pourquoi
ne le font-ils pas ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui parfois trop directement, fustigent les élus locaux, qui eux-mêmes, d'ailleurs, je le rappelle, font face à une baisse sans précédent de leur dotation, une confiscation d'une partie de leur fiscalité pour avoir des relais de croissance. Est-ce que ces élus locaux, qui sont d'ailleurs, il faut le rappeler, les premiers bénéficiaires du plan d'action cœur de ville, vous avez raison de le dire, parce que grâce au plan d'action cœur de ville, vous avez revitalisé, redonné vie à des quartiers. Pourquoi ça signe pas plus ?
Nous, on remercie les élus locaux, et fort heureusement, ils sont nombreux, qui sont des bâtisseurs, qui ont une vision de long terme, qui transforment leur ville au service de leurs concitoyens, qui permettent d'attirer des investissements, des entreprises, qui changent leur ville, qui bougent. On ne peut pas être statique. Et évidemment, on a une catégorie d'élus locaux qui sont contre tout pour des mauvaises raisons, pour des raisons idéologiques, pour des raisons soi-disant de coûts additionnels. Mais à un moment donné, si on n'est pas en dynamique, oui, peut-être que ça peut représenter des coûts, des nuisances. Mais c'est temporaire par rapport à ce que ça apporte à une ville à long terme.
Bien sûr.
On voit bien d'ailleurs, finalement, les villes qui n'investissent pas dans l'immobilier, qui n'investissent pas dans leur transformation, qui n'offrent pas un habitat digne et aussi au standard de ce que souhaitent les populations. Ce n'est pas des cages à lapins qu'on met, ce n'est pas des boîtes à chaussures. C'est des logements qui correspondent aux aspirations des gens pour qu'ils se sentent bien. On n'a pas envie, on détient le record d'antidépresseurs de consommation en France. Il faut que les gens, c'est quand même là où ils passent beaucoup du temps de leur vie, soient bien dans les logements. Et donc, on ne peut pas dire oh, « ben, on a suffisamment ». Non. C'est quelque chose de dynamique. Il y a toujours à refaire, à construire, à réhabiliter, à changer, à transformer des quartiers parce que les usages se transforment. La façon de vivre évolue.
Bien sûr.
Alors, on a fait un constat là, général où, en fait, finalement, on comprend qu'on est aujourd'hui dans une logique de difficulté. Pour autant, je retiens une phrase intéressante que vous venez de dire, c'est qu'on ne peut pas être statique. Moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de vos actions chez 3F. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour continuer d'agir malgré le contexte qui est compliqué encore une fois ?
Ben nous, on a des agréments qui augmentent. Hein.
Et malgré la RLS.
Hein. Nous, on pète tous les scores. Hein. Ouais. Pourquoi ? Mais parce qu'on a un savoir-faire qui est assez unique sur le territoire national. Deuxièmement, on a beaucoup investi dans une direction de l'urbanisme, du patrimoine, de l'architecture. Et on a une réflexion sur les matériaux, sur l'esthétique, sur le bas carbone, sur un certain nombre de sujets où on apporte des solutions, en fait. On n'apporte pas des problèmes aux collectivités. On anticipe ce que peuvent dire les riverains. On regarde notre impact en termes de chantier. On essaye de dire, mais nous, on apporte finalement à votre ville une solution sur le bas carbone. On va réduire vos émissions CO2 grâce à nos constructions. On va vous régler finalement un problème que vous aviez, une verrue urbaine, un problème, dans un quartier un peu chaud. On va venir avec des solutions, on va remettre de la vie, on va s'occuper des pieds d'immeubles, on va mettre des commerces intelligents qui sont utiles pour les habitants. Et donc, cette réflexion d'ensemblier urbain, où on prend les meilleures pratiques qu'on arrive à identifier dans toutes les filiales, on les fait remonter, on passe. Et vraiment, cette maîtrise d'ouvrage direct qui nous permet de faire vraiment de la qualité. Nous, on a des prix d'architecture.
Vous avez conservé cette compétence.
Comment ?
Vous l'avez conservé, cette compétence. Les autres bailleurs sociaux n'ont pas conservé les mêmes compétences.
Oui,
vous avez conservé la direction du patrimoine, la direction de l'urbanisme. Vous avez conservé de l'ingénierie en approche travaux, parce que vous appelez en travaux des volumes très conséquents, vous le savez. Je crois qu'en commande publique, vous devez être sur des chiffres qui sont quand même astronomiques. Mais vous avez gardé les compétences en interne. Est-ce qu'il n'y a pas, à l'instar d'une crise qui touche aussi l'ensemble des ESH au global, une réflexion à avoir sur la réintégration de l'acte de construire ? Parce que vous avez dit un mot qui m'a pas échappé, hein. C'est la maîtrise d'ouvrage direct.
Mais on a
vous l'avez conservé. Pourquoi les autres ?
On n'a pas fait que conserver, on l'a développé. Et on l'a développé en le proposant, parce que c'était quelque chose de très parisien, c'était au niveau du siège. Et on a, par capillarité, commencé aussi à l'implanter dans les filiales, en région. Et on a stimulé en montrant des beaux projets. On a lancé l'association
Comment ? Est-ce que vous avez recruté des nouveaux talents ?
Oui, bien sûr, on a recruté. Et puis, on travaille avec les architectes, avec les pépinières, hein, avec des jeunes archis. On fait des trucs qui sont absolument, uniques en France. On donne de la visibilité sur du carnet de commandes à des architectes. C'est des professions qui sont aussi paupérisées. Si on veut des talents, si on veut que des gens réfléchissent. Moi, la première chose que j'ai fait chez 3F, c'était de réunir les architectes.
Mais bien sûr.
Ils n'ont pas compris la démarche, puisqu'ils m'ont dit, on n'a jamais vu le président de 3F. Enfin, c'est pas naturel. Ouais. Je dis, mais moi, c'est très important, parce que vous êtes le coup de crayon, entre guillemets, à la base. Je suis pas un spécialiste du secteur, mais moi, je suis un chef d'entreprise. Et vous êtes pour moi des entreprises. Et donc, quelqu'un ne peut pas travailler correctement avec, la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire de l'innovation et penser à long terme s'il n'a pas une visibilité sur son carnet de commandes. Et donc, nous, chez 3F, on a sélectionné une série d'architectes avec lesquels on va pouvoir travailler sur le long terme. Et je pense que c'est important aussi de considérer que ces cabinets d'architecture, c'est aussi, ils ont aussi des modèles économiques à tenir, quoi.
Oui. Fab, est-ce que vous me permettez, pardon, oui.
La toute dernière question.
Alors non, je voulais faire une citation pour changer.
Faites.
Pour illustrer, voilà, une citation que je voudrais dédier à Fabrice Le Sachet, que j'utilise assez souvent pour définir l'idée, parce que vous êtes un homme d'avenir. Et je vais vous citer Victor Hugo, si vous voulez bien. Victor Hugo disait « Je préfère l'avenir au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. » Et ça vous va très bien. C'est toujours un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau.
Toujours un vrai plaisir. Merci. Et une toute dernière question.
On ne peut pas conclure après Victor Hugo.
Ben voilà. Ouais, je sais que c'est compliqué, mais malgré tout, alors, une dernière petite question, Fabrice Sachet. Puis on va évidemment vous remercier d'être venu là nous voir. Nous avons affaire en ce moment toujours à un gouvernement démissionnaire. On aura peut-être le nom d'un Premier ministre d'ici la fin de la semaine. Peut-être un gouvernement la semaine prochaine. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur nouveau ministre du Logement ? Première chose.
Ça, c'est une bonne question.
Alors ça, c'est une question qui pourrait partir dans beaucoup de directions, mais la première chose qu'on aimerait lui demander, c'est, vous aviez évoqué en début d'interview les regrets, les larmes de certains, disant qu'ils ont compris, qu'ils ont vu les ravages que ça faisait depuis des années. Et donc peut-être que c'est de bâtir sur ces regrets, puisque maintenant le constat semble partagé. Et donc, bâtissant sur ses regrets, pouvoir prendre les solutions qu'on préconise, qui sont nombreuses et qui sont assez simples. Ça s'appelle un choc d'offres. Et ce choc d'offres, il n'y a pas mieux. Quand je vois le résultat de l'encadrement des loyers dans certaines villes comme à Lyon, qui sont absolument catastrophiques, le jour où on comprendra que contraindre une pénurie, ça ne réglera absolument pas le problème d'offres, on se sera évité beaucoup de problèmes. Voilà. Travaillons sur l'offre.
Un choc d'offres. Merci beaucoup, Fabrice Sachet, d'être venu sur ce plateau. Merci également à vous de votre fidélité. On vous fait vivre en direct cette 6e édition de l'AREF et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite, merci.
L'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.